Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, René avec vous pour le magazine Lille Info, comme chaque mercredi dorénavant à 16h jusqu'à 16h30. Un magazine hebdomadaire, régulier donc, pour vous parler de ce qui se passe à l'Université Lille 1. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations extérieures, des partenariats avec les entreprises, avec M. Francis Guilbert, qui est vice-président en charge des relations extérieures, entreprises et communications, et Florence Fournier, qui est donc en charge des relations partenariales donc avec les entreprises. Bonjour.
Bonjour René. Bonjour.
Les universités sont de plus en plus en relation avec les entreprises. C'est, on peut dire, l'air du temps et peut-être aussi la nécessité d'un système à la fois d'enseignement, mais aussi de recherche et puis aussi de besoins d'entreprises. Donc on va parler un petit peu de ce thème-là aujourd'hui. Francis Guilbert, donc... Vous avez cette responsabilité au sein de l'Université Lille 1. Est-ce qu'on peut avoir une idée des évolutions qui se mettent en place ?
Alors, il est évident que l'université aujourd'hui a de multiples missions, dont la formation et la recherche sont l'essentiel, mais également des missions d'insertion professionnelle et de contribution au développement socio-économique de notre pays. Or, ce développement socio-économique passe également par le tissu des entreprises, qui est extrêmement riche, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises commerciales. On parle de plus en plus aujourd'hui de développement par l'innovation. Il y a par exemple un schéma régional de l'innovation sur lequel nous devons travailler tous en commun, parce que dans les laboratoires, nous développons des projets de recherche et les entreprises, grâce à l'évolution, grâce à la technologie, peuvent être plus compétitives et donc faire avancer l'ensemble du pays.
Donc ces entreprises, pour certaines, sont en recherche de solutions, parfois. J'allais dire, leur partie recherche-développement s'appuie souvent aussi sur les compétences des universitaires, des chercheurs.
Alors oui, tout à fait. Il y a deux éléments que nous pouvons apporter en tant qu'université. D'une part, les compétences de nos enseignants-chercheurs et de nos chercheurs, puisqu'il y a aussi des personnes qui sont en poste de chercheurs et qui ne font pas d'enseignement, mais également de nos doctorants. Nous avons un millier de doctorants aujourd'hui sur l'université, à peu près 5% de notre effectif, et c'est une capacité, une compétence considérable. Et par ailleurs, nous avons aussi des matériels avec lesquels nous pouvons effectuer un certain nombre de mesures ou des interventions et répondre à des besoins d'entreprises qui n'ont pas peut-être les moyens de s'offrir ces matériels. Et donc là, nous pouvons travailler en synergie avec elles.
Est-ce que ces matériels de haute technologie, de pointe donc, sont justement achetés par l'université avec des financements qui correspondent à des projets dans lesquels interviennent les besoins de ces entreprises de la région?
Alors nous sommes en fait aujourd'hui sur certains financements qui sont multipartenaires. Il y a les organismes de recherche, les grandes institutions, l'université elle-même qui abonde bien évidemment pour une partie sur ses propres budgets. Et puis ensuite, il y a des conventions de partenariat qui permettent à une entreprise de financer une partie de matériel en ayant, par exemple, en échange, un certain nombre de prestations qui sont définies. Et ça permet aux chercheurs de disposer d'un matériel de pointe.
Florence Fournier, donc cette relation avec les entreprises, elles sont continues ou il y a des temps forts? Vous êtes en recherche ou sont les entreprises qui sont en demande?
Nous, on est en recherche permanente, on va au-devant des entreprises, donc ça peut être au travers de salons ou sur prise de rendez-vous direct. Donc on essaye de voir avec elles, de répondre à leurs besoins, donc que ce soit au niveau de la formation, de la recherche, de l'insertion professionnelle, donc l'offre de stage, la formation en alternance, ou on aborde aussi, bien sûr, avec elles, le soutien à l'université.
C'est vrai qu'on ne peut plus trop concevoir les études sans stage, des périodes qui sont parfois courtes, parfois longues, notamment plus on avance dans les études, plus les temps de stage pratique, on va dire, sont importants. Puis il y a aussi ces formations en contrat d'alternance. Qu'est-ce que ça représente, le nombre de stagiaires de l'Université Lille 1 et aussi le nombre de contrats en alternance?
Alors, chaque année, 4500 étudiants partent en stage en entreprise. À cette occasion, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle organise tous les ans, là cette année, le 21 novembre prochain, une rencontre entreprise. Donc, une cinquantaine d'entreprises viennent se rendre donc, au Bureau d'aide à l'insertion professionnelle pour recruter leurs stagiaires. Par ailleurs, on a 1500 étudiants qui suivent des formations en alternance, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, puisqu'on a au total plus de 70 formations ouvertes à l'alternance.
Cette relation à l'entreprise, est-ce qu'elle fait l'objet de contractualisation, de quelque chose qui reste écrit et qui s'inscrit dans une certaine durée ?
Oui, tout à fait. Alors, nous mettons en place des accords cadres avec certaines entreprises, donc notamment celles avec lesquelles on a différents partenariats. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit en formation, en insertion professionnelle, en recherche, où on a des contractualisations donc plus ponctuelles avec d'autres entreprises qui sont en général plus petites, qui peut en fait ne se consacrer qu'en fait à une formation en alternance ou une convention de stage.
Est-ce qu'il y a des domaines particuliers d'études où les étudiants ont du mal à trouver des stages et d'autres où c'est plus facile?
Alors, je pense qu'on a plus de difficultés sur des formations plus spécifiques. Lorsqu'on est on est dans le cadre de formations où on touche des compétences transversales, c'est beaucoup plus facile puisqu'en fait, forcément, toutes les entreprises disposent les plus grandes entreprises disposent de direction RH, formation, etc. Il arrive qu'en fait, sur des domaines plus spécifiques, ce soit plus difficile. Oui.
Donc ces entreprises, leurs besoins, vous les sentez évoluer ou bien d'une année sur l'autre, on retrouve à peu près les mêmes?
Sur les besoins des entreprises, en dehors des compétences, il y a également un élément extrêmement important aujourd'hui dont les jeunes doivent être conscients, c'est l'implication et la motivation. Aujourd'hui, on ne peut pas simplement se dire « je viens faire un stage, je prends un contrat d'alternance ». Et je regarde ce qui se passe. Non, c'était vraiment un investissement très très fort que doit faire l'étudiant et qu'attend l'entreprise également. De la même manière, lorsque nous sommes en relation, la relation avec l'entreprise ne se fait pas simplement sur le plan professionnel, mais doit déboucher aussi sur une vraie relation de confiance quand on travaille par exemple sur des contrats de recherche, puisqu'il y a des questions de secret professionnel, de confidentialité bien évidemment. Et si cette confiance ne s'instaure pas, tant avec les chercheurs qu'avec les jeunes, eh bien, la relation ne peut pas bien se dérouler.
Alors, il y a eu quelques événements qui ont un peu défrayé la chronique sur, par exemple, les piratages ou les gens qui récupèrent des secrets qu'ils vendent parfois à l'étranger. Est-ce que ça relève de la fabulation? Ce sont des choses qui ont pu exister. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en prémunir?
Alors, bien sûr, ce genre de choses existe parce qu'il y a toujours un ou deux cas. Le problème est que lorsqu'il y a un ou deux cas, toute la presse s'en empare et puis on les relaie beaucoup. Sur les 4500 stagiaires que nous avons chaque année, sur 10 ans, ça fait 45 000. Je n'ai pas mémoire d'avoir eu une fois un problème de plainte d'une entreprise disant « un stagiaire m'a piraté des données et les a revendues à un concurrent ». Ça n'existe pas. Mais il peut effectivement y avoir parfois une indélicatesse. Mais nous sommes très vigilants là-dessus, même dans les rapports, par exemple, de stage. Ils sont conservés pendant un an, mais sous clé. Et de manière à ce que personne n'y ait accès, même pas un professeur. Personne n'a accès à ces éléments d'informations. Ensuite, sur la manière dont ça se passe dans le temps, je voudrais mettre l'accent sur le fait que souvent les stages ou l'alternance permettent de déboucher sur un emploi derrière, en CDI. Et ça, c'est un point important. Quand on sait qu'aujourd'hui, les CDI sont quand même en chute forte, on prend très souvent en embauche des CDD, eh bien, ceux qui sont passés en alternance ou en stage ont beaucoup plus facilement un CDI. Et ça, c'est un point extrêmement fort. Je voudrais le souligner pour tous les jeunes qui se disent « Oui, mais quoi derrière ?» Eh bien, derrière, il y a une possibilité d'emploi plus pérenne.
En général, d'ailleurs, c'est parce que les entreprises ont un peu anticipé sur leurs besoins et qu'elles ont bien défini qu'il y aurait à terme un emploi.
Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que les stages et les contrats d'alternance sont plus un moyen de, entre guillemets, de tester le jeune et sa vraie implication, sa vraie motivation, et bien sûr, en même temps que ses compétences. Mais si l'essai est transformé, le contrat est transformé, sans aucun problème.
Il n'y a pas de concurrence, a priori, entre les salariés et les stagiaires? On ne sent pas une tension?
Non, parce que il y a d'abord des règles très strictes concernant les stages. Un stagiaire n'est pas là pour remplacer un emploi permanent. On n'est pas là pour remplacer quelqu'un qui est en congé maternité ou en congé maladie. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Un stagiaire est quelqu'un qui vient également pour apprendre. Il vient pour apprendre, mais souvent les entreprises demandent aujourd'hui un stage de 4 à 6 mois, parce que c'est en 4 à 6 mois qu'on arrive vraiment à évaluer la production également du jeune, puisqu'à un moment donné, il cesse d'apprendre pour passer dans le registre opérationnel. Et c'est là que la mayonnaise prend, comme l'on dit, ou ne prend pas. Et si elle prend, eh bien, ça lui garantit son emploi derrière, parce qu'il sera sur des projets de développement. Souvent, les entreprises prennent un jeune en stage ou en alternance pour tester un nouveau produit, une nouvelle idée, ou pour travailler sur un projet de développement. Et si ça se concrétise, eh bien, à ce moment-là, c'est une réussite pour tous les deux.
Est-ce qu'en général, l'accueil, l'encadrement est suffisant pour permettre à ces jeunes de travailler aussi sur leur projet professionnel?
Dans l'entreprise ou le suivi par l'université? Ouais. Parce qu'on a les deux. Hein. Il y a aussi le suivi par l'université. Nous avons, nous, à chaque fois qu'il y a un stage ou un processus d'alternance, quelqu'un qui est encadrant comme tuteur, hein, qui accompagne bien évidemment. Et au niveau de l'entreprise, je dirais on a 90% de réussite à 95%. Il y a toujours quelques cas où il y a un peu une question d'incompatibilité entre le jeune et son tuteur d'entreprise. Mais c'est relativement rare, on essaye de les régler, on ne réussit pas toujours, il faut en être conscient. Mais globalement, j'ai rencontré beaucoup de responsables d'entreprise qui ont à cœur de faire réussir également le jeune, parce qu'ils considèrent un peu que c'est presque leur propre enfant, quoi. Ils veulent l'accompagner.
Il y a un effet transmission aussi parfois?
Oui, transmission de savoir, transmission d'expérience. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand un jeune part pour une alternance ou pour un stage, quand il revient, il a changé dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter, dans sa prise de responsabilité. La présence en entreprise est vraiment un apprentissage de responsabilité. On n'est pas là simplement pour apprendre, on est là aussi pour être capable de résoudre des problèmes, et pas simplement sur le plan académique. C'est pour ça qu'on parlera de compétences et non pas simplement de savoir ni savoir-être.
Donc certaines, on va dire, facultés privées, enfin établissements privés d'enseignement, utilisent comme source la taxe d'apprentissage, comme source financière. Est-ce que pour les établissements publics, pour les universités, il y a cette possibilité également?
Oui, tout à fait. Nous avons plusieurs sources de financement qui proviennent des entreprises. La taxe d'apprentissage en est un des éléments. Et en fait, elle nous verse la taxe d'apprentissage soit sur ce qu'on appelle le quota pour les contrats d'alternance, soit sur ce qu'on appelle le hors-quota. Le hors-quota, c'est quoi? Eh bien, c'est une somme qui peut être délivrée à une université simplement parce qu'on lui fait confiance, on considère qu'elle fait du bon travail. Et je peux vous dire que ces sommes ne sont pas négligeables. Hein. C'est sur l'île 1, plusieurs centaines de milliers d'euros, je ne vous donnerai pas le chiffre exact, puisque nous avons sans doute des concurrents qui sont à l'écoute, bien évidemment, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, ces moyens nous permettent d'équiper des salles de TP, d'équiper en ordinateur, de financer des conférences, et ainsi de suite, et que tout cela contribue à la bonne formation de nos étudiants.
Est-ce que cette taxe est répartie sur l'ensemble des formations, ou bien elle est spécialisée ou affectée à certaines formations plutôt que d'autres?
Il y a trois niveaux, c'est-à-dire qu'à l'origine, l'entreprise peut verser sur une formation donnée ou plusieurs formations. Elle peut également verser à l'une des composantes de l'université, que ce soit une école, un institut ou une unité de formation et de recherche. Et elle peut également verser globalement à l'université, au BAIP dont on parlait tout à l'heure, le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle par exemple. Et donc dans ce cas-là, nous avons des décisions de conseil d'administration sur les affectations de ces sommes, bien évidemment. Mais si une entreprise verse à une formation, cela généralement reste acquis à la formation pour la plus grande partie.
Certaines associations d'intérêt général ou d'intérêt public peuvent faire valoir justement le fait que des donateurs aient des dégrèvements fiscaux ou voilà, font appel aux dons d'une manière générale. Est-ce qu'il existe aussi des donateurs pour l'université au-delà de cette taxe d'apprentissage ?
Alors nous venons d'initier le processus et Florence qui a suivi ce dossier et l'a mis en œuvre pourra vous en parler un peu plus longuement. Aujourd'hui, l'université entre dans ce processus. Pourquoi ? Eh bien, il y a un article dans le Code des impôts, donc l'article 200, qui permet à toute personne physique ou toute personne morale de faire des dons. C'est bien sûr complètement gracieux, il n'y a aucune contrepartie, simplement parce qu'on croit en quelque chose, comme vous donnez à la Fondation de France ou une action humanitaire. C'est exactement le même principe, puisque nous sommes un service public, et donc nous sommes habilités à recevoir ces dons. Je vais peut-être laisser Florence dire quelques mots sur le sujet, la manière dont l'élément a été monté aujourd'hui avec un accès direct en ligne. Et nous allons lancer très officiellement cette campagne dans les jours qui viennent.
Donc on a effectivement lancé la campagne de collecte de dons en juin dernier, qui est accessible en fait sur notre site internet. Donc on a une application dédiée. Nous proposons en fait aux futurs donateurs d'affecter leurs dons, enfin s'ils le souhaitent, soit à une thématique de recherche, soit à une composante en particulier, ou à un axe de développement, comme par exemple la mise en place du Learning Center, la valorisation du patrimoine culturel. Donc aujourd'hui, on continue d'avancer dans ce sens et on a identifié à aujourd'hui quatre grands domaines sur lesquels nous souhaitons, bien que des entreprises ou des particuliers nous versent des fonds s'ils le souhaitent, donc notamment le patrimoine culturel, le développement durable, le handicap et le domaine de la santé. Voilà.
Donc, Francis Guilbert et Florence Fournier, on est ici au mois d'octobre, on va dire. Est-ce que, avec les entreprises, vos rapports ont une relation qui s'inscrit sur une année universitaire ou plutôt sur une année civile ? Cette histoire de dons, par exemple, il y a un an ?
Alors, sur les dons, bon, il y a bien sûr l'élément d'une année fiscale, si j'ose dire, pour l'entreprise, bien évidemment. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est instaurer des relations pérennes. Pourquoi ? Parce que la mise en place d'une relation est coûteuse. Coûteuse en temps, coûteuse en énergie, parfois coûteuse en moyens. Il faut se déplacer, il faut se rencontrer. Mais par contre, en résultat, si tout fonctionne bien, si l'on a confiance, si l'on fait de la convergence d'idées, eh bien, nous avons des résultats extraordinaires. Il faut savoir que des grands projets comme le VAL, par exemple, le métro, aujourd'hui, que l'on connaît, sont des projets qui sont nés de relations entre l'université et l'entreprise.
Donc on a parlé des entreprises, mais il y a aussi une structure qui les rassemble, qui rassemble au moins les entreprises à dimension commerciale, c'est la Chambre de commerce. Est-ce que vous avez des relations avec cette Chambre de commerce ?
Oui, alors donc la CCI, Chambre de commerce et d'industrie. En fait, aujourd'hui, les CCI se sont regroupées. Plusieurs CCI de la région. Avant, il y avait des CCI à Lille, à Douai, etc. Aujourd'hui, donc, on parle de CCI Grand Lille, qui rassemble plusieurs CCI. Elles ont fusionné. Et nous sommes, nous, actuellement, en phase terminale de négociation d'un partenariat cadre avec la Chambre de commerce et d'industrie Grand Lille, qui permettra de mettre en face à face des entreprises qui seront choisies, répertoriées par la CCI et pour nous-mêmes, choisir et répertorier des laboratoires et amener donc une rencontre entre ces deux acteurs. Donc c'est une convention cadre qui permettra de faciliter en fait les relations.
Par rapport aux stagiaires dont on parlait tout à l'heure, est-ce que dans certaines formations, certains laboratoires de recherche, on a des grilles qui précisent les périodes de stage possibles pour les étudiants, et pour mettre ça en fait à la connaissance des entreprises, savoir qu'à telle période il pourrait y avoir telle possibilité?
Alors, vous avez la possibilité d'aller directement sur le site Passepro. Donc, il suffit d'aller sur Google, vous tapez Passepro, et vous avez effectivement un calendrier des stages, donc pour toute l'année universitaire, pour toutes les formations.
Pour toutes les universités? Si on tape Passepro,
non, pour l'université de Lille. Pardon.
C'est ça.
Oui. Donc, pour Lille. Et en fait, ensuite, il y a les questions d'indemnité. Aujourd'hui, il y a un texte ministériel qui est passé depuis quelques années. L'indemnité mensuelle, c'est 430 euros. C'est pas grand-chose, apparemment, mais c'est déjà mieux que rien. Mais surtout, ce qu'il faut retenir également, c'est que pour certains stagiaires, les entreprises n'hésitent pas à verser des indemnités jusqu'à 1500 euros.
Donc ça dépend du besoin, en fait.
Ça dépend du besoin, ça dépend du profil du stagiaire, ça dépend de son implication. Donc parfois, on part sur la base de 430 et il y a une prime à la fin. Parfois, on reste à 430. Ce n'est pas nécessairement parce que le stagiaire n'a pas été bon, mais simplement aussi parce que l'entreprise a des moyens extrêmement limités et donc elle reste au minimum.
Ça se négocie, tout ça?
Tout ça se négocie. Ça se négocie. D'ailleurs, dans ce que l'on fait avec Passepro, il y a aussi l'apprentissage de cette négociation qui est le préalable à la négociation du salaire pour la suite.
Il y a des concurrences entre entreprises qu'on peut essayer avec lesquelles on peut jouer?
Alors, la concurrence dans le domaine de ce qu'on appelle les ressources humaines ne se fait pas en fait sur le plan financier. Une entreprise est tout à fait consciente que lorsqu'il y a quelqu'un qui en vaut la peine en face, il faut mettre la rémunération adéquate en face ou l'indemnisation adéquate. Et pour les jeunes, s'ils jouent au système de dire « je prends au plus offrant », ce n'est pas un bon système. Ce qu'il faut chercher, c'est quel est mon avenir professionnel? Quelles sont les perspectives? Entre un stage à 1200 euros d'indemnité par mois, mais aucune perspective à la fin, et un stage à 600 euros, mais une perspective ensuite de progression dans cette entreprise, de recrutement en CDI, le choix est très vite fait. Il faut prendre la deuxième.
Alors, est-ce que dans ces entreprises, certains étudiants recherchent aussi à aller plus loin que la région, hein, à l'international, pourquoi pas?
Oui, alors on a effectivement aussi beaucoup de stages internationaux. D'ailleurs, le département relations internationales, quand il rencontre des universités étrangères, rencontre aussi parfois des entreprises. J'ai même accompagné une mission relations internationales en Russie il y a quelques mois, et nous partions en mission avec la Chambre de commerce internationale de Lille. Et donc, nous avons rencontré là-bas et des entreprises et des universités. Et nous sommes en train de discuter un partenariat avec une entreprise de la région qui mettrait en place des formations là-bas et qui accueillerait aussi des stagiaires là-bas venant de chez nous.
Florence Sournier, Francis Gilbert, donc une conclusion peut-être, peut-être définir un besoin, c'est le moment.
Bah, tout d'abord, merci René de nous avoir donné l'occasion de parler des entreprises, parce que parfois certains se disent l'université a une vocation sociale, bien sûr elle a une vocation sociale, mais elle a aussi la vocation d'amener les jeunes à pouvoir s'insérer professionnellement, de réussir leur vie personnelle, d'avoir une vie de famille, d'élever des enfants, et pour cela eh bien, rien de tel qu'un bon emploi dans une bonne entreprise qui vous permet de progresser.
Je vous remercie beaucoup et bonne journée.
Merci René.